Nienor à Bréthil. Quant à Nienor, elle alla toujours courant par les grands bois, percevant les cris des poursuivants. Et elle arracha ses vêtements et les sema dans sa course éperdue jusqu'à se trouver nue. Et tout le jour elle courut comme une bête traquée au point de défaillir et qui n'ose s'arrêter ou souffler. Mais vers le soir, soudain sa folie s'apaisa. Un instant elle se tint coite, comme interdite, puis, fourbue, se laissa choir pâmée de fatigue sur un lit de fougères. Et là, à l'ombre des hautes fougères et des fraîches frondaisons printanières, elle resta profondément endormie et insouciante de tout. Au matin, elle s'éveilla et se réjouit de la lumière, comme qui revient à la vie. Et toutes les choses alentour lui parurent neuves et singulières, et elle ne leur connaissait aucun nom. Car derrière elle, il n'y avait qu'un néant de ténèbres d'où n'émergeait aucun souvenir de ce qu'elle avait su autrefois, ni l'écho du moindre mot. Seule une ombre d'effroi l'habitait, l'incitant à aller, furtive, cherchant toujours à se cacher. Et elle grimpait dans les arbres ou se blottissait dans les fourrés, plus prompte que l'écureuil et le renard si quelque bruit ou forme l'effrayait. Et de sa cachette, elle épiait longtemps à travers les branches avant de repartir. Cheminant ainsi dans la direction de sa course première, elle parvint à la rivière Taïglin et étancha sa soif. Mais elle ne trouva aucune nourriture et ne savait s'en procurer, et elle avait grand faim et froid. Et parce que les arbres de l'autre côté de l'eau lui parurent plus sombres et plus touffus, et en effet, car c'était la crue de la forêt de Bréthil, elle traversa enfin et atteignit un tertre verdoyant, et là s'effondra. Car elle était épuisée. Et les ténèbres qu'elle avait laissées derrière elle, à nouveau, lui semblait-il, la gagnaient, et le soleil à nouveau s'offusquait. Or, c'était une nuée orageuse qui arrivait du sud, chargée d'éclairs et d'une forte averse. Et Nienor gisait là, terrifiée par le tonnerre, et la sombre pluie fouettait son corps nu. Or, il se trouva que quelques forestiers de Bréthil passaient par là, de retour d'une échauffourée avec les orques, et se hâtant de franchir les passages du Taïglin pour rejoindre leur abri tout proche. Et un puissant éclair fulmina, qui illumina tout le Hon en Eleth d'une flamme blanche. Alors Turambar, qui commandait la petite troupe, brusquement chancela et se voila les yeux, et il tremblait. Car il avait cru apercevoir, étendu sur le tertre de Finduilas, le spectre d'une jeune fille gisant comme morte. Mais l'un des hommes courut jusqu'au monticule et le héla.
« Par ici, seigneur! Il y a une jeune femme couchée là, et elle est vivante !»
Et Turambar, s'approchant, la souleva, et l'eau ruissela de ses cheveux mouillés, mais elle ferma les yeux, et, frissonnante, cessa de se débattre. Alors, tout étonné de la trouver là, étendue dans sa nudité, Turambar la revêtit de son manteau et l'emporta jusqu'à leur cabane de chasseurs au fond des bois. Et ils allumèrent un feu et l'enveloppèrent de couverture. Et elle ouvrit les yeux et les considéra. Et lorsque son regard rencontra Turambar, son visage s'éclaira et elle lui tendit la main, car il lui semblait avoir enfin trouvé ce qu'elle avait tant cherché dans les ténèbres. Et elle se sentit apaisée. Mais Turambar lui prit la main et sourit, et dit « Eh bien, dame, nous diras-tu ton nom et ta parenté, et quel malheur t'est arrivé ?» Mais elle secoua la tête et ne dit mot, mais elle se mit à pleurer. Et ils ne la questionnèrent plus jusqu'à ce qu'elle ait assouvi sa faim avec les nourritures qu'ils lui purent procurer. Et lorsqu'elle eut mangé son content, elle soupira et posa de nouveau sa main dans celle de Turambar, et il dit « Avec nous tu n'as plus rien à craindre. » Et tu peux te reposer cette nuit, et au matin, nous te conduirons à nos habitations sur les hauteurs de la forêt. Mais nous souhaiterions connaître ton nom et ta parenté afin de rechercher ta famille et de leur donner, peut-être, des nouvelles de toi. Ne nous diras-tu rien ?» Mais de nouveau elle ne répondit rien, et pleura. « Ne sois pas en peine, » dit Turambar. « C'est peut-être chose encore trop triste à raconter, mais je te donnerai un nom, et je t'appellerai Niniel. « Fille des larmes. » Et à ce nom, elle releva les yeux et secoua la tête, mais elle dit « Niniel. » Et ce fut le premier mot qu'elle prononça après son retour des ténèbres, et tel fut désormais son nom parmi les forestiers. Le matin, ils portèrent Niniel vers Efelbrandir, et la route était raide qui gravissait les pentes de l'Amon Obel jusqu'à l'endroit où elle traverse un torrent tumultueux, le Quélébros. On avait construit là un pont de bois, et en aval, le torrent franchissait une margelle de pierre tout usée et déferlait, écumant par-dessus plusieurs marches pour retomber en cascade dans une vasque beaucoup plus bas. Et l'air était criblé d'écume comme de pluie fine. Et en haut des chutes, il y avait une verte prairie environnée de bouleaux. Mais de l'autre côté du pont, la vue découvrait à l'horizon les gorges du Teiglin à environ une demi-lieue à l'ouest. L'air était frais, et en ce lieu, les voyageurs faisaient souvent halte l'été pour boire de cette eau fraîche. Ces chutes avaient nom d'Imrost, les marches de la pluie. Mais à compter de ce jour, elles s'appelèrent Nengirith, l'eau frissonnante. Car Turambar et ses hommes s'étant arrêtés au bord de la rivière, Niniel s'en approcha. Et incontinent, le froid la saisit et elle se mit à trembler. Et ils furent impuissants à la réchauffer ou la réconforter. Aussi reprirent-ils leur chemin précipitamment. Mais avant qu'ils eussent atteint Efelbrandir, Niniel déjà s'égarait dans une forte fièvre. Longtemps la maladie l'atteint alité, et Brandir usa de tout son art pour la guérir, et les femmes des forestiers la veillèrent nuit et jour. Mais elle reposait paisiblement ou dormait sans gémir uniquement lorsque Turambar venait à son chevet. Et cela, tous ceux qui se tenaient alentour le remarquèrent. Et durant tout le cours de sa fièvre, et bien que son esprit souvent s'égara, jamais ne murmura-t-elle un seul mot d'une langue connue, ni d'elfe, ni d'homme. Et quand la santé lentement lui revint, et qu'elle recommença à marcher et à manger, les femmes de Blethil durent lui apprendre à parler, tout comme à un petit enfant, mot après mot. Mais elle était vive, et elle prit grande joie à cet apprentissage, comme qui retrouve des trésors précieux, ou moins précieux, qui auraient été perdus. Et lorsqu'il en sut enfin assez pour converser avec ses amis, elle disait « Quel est le nom de ceci? Car dans mes ténèbres je l'ai perdu. » Et lorsqu'elle put de nouveau aller et venir, elle fréquenta volontiers la maison de Brandir, car elle était avide d'apprendre le nom de toute chose vivante. Et il en savait long dans ses domaines, et ils se promenaient ensemble dans les jardins et les clairières. Et Brandir vint à l'aimer d'amour, et lorsqu'elle reprit des forces, volontiers elle lui donnait le bras pour l'aider à marcher, car il boitait, et lui disait « frère ». Mais son cœur était tout dévoué à Turambar, et elle ne souriait qu'à son approche, et ne riait que lorsqu'il parlait gaiement. Et par un beau jour d'automne doré, ils étaient assis côte à côte, et le soleil embrasait la colline et les maisons sur Efelbrandir, et régnait un profond silence. Et Niniel lui dit « Maintenant j'ai demandé le nom de toute chose, sauf le tien. Quel est ton nom ?»« Turambar, » répondit-il. Alors elle s'interrompit, comme prêtant l'oreille à un écho, et ensuite poursuivit « Et que dit ce nom? Ou est-ce simplement ton nom, à toi seul ?»« Cela signifie, » dit-il, « maître de l'ombre ténébreuse. Car moi aussi, Niniel, j'ai connu les ténèbres où se sont perdues des choses chéries, mais je pense maintenant les avoir vaincues. Et as-tu aussi fui ces ténèbres à vive allure jusqu'à ce que tu aies découvert ces forêts enchanteresses ?» demanda-t-elle. « Et quand es-tu échappé, Turambar ?»« Oui, » répondit-il, « j'ai fui pendant de longues années, et je me suis échappé au temps où toi-même tu t'échappas. Car tout était sombre lorsque tu survins, Niniel, mais la lumière s'est faite depuis lors. Et il me semble que ce que j'ai longtemps cherché en vain est venu à moi. » Et rentrant chez lui dans le crépuscule, il se dit « Aud Eneleth, du tertre verdoyant elle est venue. Est-ce un signe? Et comment le comprendre ?» Et déclina cette année dorée et se mua en un hiver très doux, et se leva une autre année lumineuse. La paix régnait dans la forêt de Blethil, et les forestiers se tenaient coi, et ne faisaient pas de sortie, ni ne recevaient aucune nouvelle des pays environnants. Car les orques qui, à cette époque, infestaient le sud, sous le sombre règne de Glaurung, ou que l'on envoyait espionner aux frontières du Doriath, évitaient les passages du Teiglin et passaient à l'ouest, à bonne distance de la rivière. Et Niniel était complètement guérie à présent, et elle avait grandi en beauté et en vigueur. Et Turambar ne se contint plus et la demanda en mariage. Et Niniel se réjouit. Mais lorsque Brandir apprit la chose, son cœur se serra et il lui dit « Ne précipite rien et ne prends pas en mauvaise part si je te conseille d'attendre. »
« Rien de ce que tu fais ne peut se prendre en mauvaise part, » répondit-elle. « Mais pourquoi donc me donnes-tu ce conseil, ô mon frère sagace ?»«
Ton frère sagace ?» répondit-il. « Ton frère infirme plutôt, qui n'est pas aimé et qui n'est pas aimable. Et je ne saurais guère dire pourquoi, mais une ombre environne cet homme, et j'ai peur. »«
Il y avait une ombre, » dit Liniel, « et il m'en a parlé. Mais tout comme moi, il s'en est échappé. » Et n'est-il pas digne d'amour? Bien qu'à l'heure actuelle il soit homme de paix, ne fut-il pas autrefois un grand capitaine et le plus illustre, et tous nos ennemis ne fuiront-ils pas à sa vue?
Qui t'a dit cela? Demanda Brandir.
C'est Dorlas, dit-elle. N'est-ce point la vérité?
La vérité, certes, dit Brandir.
Mais il en fut contrarié, car Dorlas était le chef du parti qui souhaitait guerroyer contre les orques. Et pourtant il chercha encore des raisons pour inciter Niniel à différer, et c'est pourquoi il dit
« La vérité, mais non pas toute la vérité, car Tulambar a été capitaine à Nargothrond, et il est originaire du Nord, et le fils, dit-on, de Hurin du Dorlomin, de la maison guerrière de Hador. »
Brandir vit l'ombre qui, à ces mots, offusqua le visage de Niniel, et il se méprit et continua.
« Aussi, Niniel, tu penses bien qu'un tel homme ne tardera pas à retourner guerroyer, et peut-être loin de ce pays. Et si cela était, comment le supporterais-tu? Prends garde, car j'ai le noir pressentiment que si Turin s'en va de nouveau au combat, c'est l'ombre qui sera maître de son destin, et non point lui.
Je le supporterai fort mal, dit-elle, mais pas mieux non marié que marié. Et peut-être qu'une épouse saura mieux tempérer son ardeur et tenir l'ombre à distance.
Elle n'en fut pas moins troublée par les propos de Brandir, et elle demanda à Tulambar de patienter encore un peu. Et il s'étonna et s'assombrit. Mais quand il apprit de Niniel que c'était Brandir qui lui avait conseillé d'attendre, son déplaisir fut grand. Mais vint le printemps suivant, et un jour il dit à Niniel « Le temps passe, nous avons attendu et à présent je n'attendrai plus. Fais ce que ton cœur t'enjoint de faire, Niniel très cher, mais considère ceci. Tel est le choix qui s'ouvre à moi. Je m'en vais retourner guerroyer dans les solitudes, où je vais t'épouser et jamais plus ne ferai la guerre, sauf pour te défendre et notre maison si elle vient à être attaquée. » Et la joie de Niniel fut grande en vérité, et elle lui engagea sa foi, et au solstice d'été ils se marièrent.
Et les forestiers leur firent une grande fête,
et ils leur donnèrent une belle maison qu'ils avaient construite pour eux sur l'Amon Obel. Et là, ils vécurent heureux. Mais Brandir était inquiet, et l'ombre sur son cœur touchait de plus en plus profond.